Notre invitée est une femme en perpétuel mouvement, en perpétuelle mutation. Ne la mettez surtout pas dans une case. Elle est addition, additionnée au sens de Romain Gary, l'un de ses mentors. Tantôt sportive de haut niveau, tantôt actrice, tantôt conseillère politique, tantôt rappeuse, toute sa vie, elle a sauté d'un univers à l'autre, d'un monde à l'autre. Peut-être pour échapper aux assignations, peut-être portée aussi par une immense curiosité, par un besoin viscéral de rassembler, d'unir, de mettre en relation. Universel, universalité, universalisme, tels sont ses maîtres mots. À un moment où l'époque a plutôt tendance à segmenter, à séparer, à communautariser, elle cherche au contraire, par sa propre histoire, par ses actions et par ses mots, à créer des chemins communs, des points de convergence. Alors cela fait débat, cela fait même polémique. Elle est parfois au cœur de clash, sur Twitter par exemple, qu'elle utilise justement pour pointer l'ennemi. Un peu comme une gladiatrice qui se lancerait dans l'arène. Y a-t-il d'ailleurs un peu de sacrifice derrière tout cela? Y va-t-elle parce que c'est aujourd'hui sur les réseaux sociaux que le combat des idées se mène? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Rachel Kahn et merci d'être ici avec nous.
Merci à vous.
Au Sénat, dans ce dôme tournant, ce lieu si particulier. Les réseaux sociaux, disons-le, sont comme une fosse aux lions. Vous n'hésitez pas à vous y jeter. Est-ce qu'il y a comme une mission? Est-ce qu'il y a comme du sacrifice derrière tout cela?
Je crois, mais... Dans notre période actuelle, où l'expression est multiple dans les médias, les journaux, mais aussi sur les réseaux sociaux, je sens bien qu'il y a une volonté de faire taire l'humanisme, de faire taire l'universalisme. Et c'est pour ça que je m'y exprime, en fait. Mmh. Voilà.
Est-ce que c'est pas illusoire? Est-ce que vous ne dites pas vous-même, parfois, que c'est un peu peine perdue, que c'est impossible de convaincre sur Twitter, que c'est un lieu de combat plus que de débat?
C'est un lieu de combat. Je ne perds jamais espoir. Ça, c'est vrai. C'est un état d'esprit. Hein. Je suis en vie, donc je ne perds pas espoir. C'est un lieu de combat. Peut-être que je n'ai pas envie forcément de convaincre, mais en tout cas, de pointer du doigt ce qui n'est plus en rapport avec nos humanités, de pointer du doigt les incohérences, de pointer du doigt la haine, de pointer du doigt ce qui ne fait pas avancer notre France, celle que je chéris. Mmh.
Sous votre photo de profil, il y a l'hymne à la joie. C'est comme un pied de nez à tous ceux qui, justement, prendraient autre chose que la paix et la joie.
Exactement. C'est un pied de nez à ceux qui prônent la haine, aux influenceurs de haine, les communautarismes, les intolérances, tous ceux qui nous fracturent, qui veulent nous diviser. Et puis, j'ai pris cette musique, parce que la musique, c'est le plus court chemin d'un cœur à l'autre. Et évidemment, avec cette Europe pleine d'espoir, cette Europe en construction, j'avais envie de reparler avec un autre langage qui est le langage musical, parce que pour moi, les artistes sont des législateurs de l'ombre, il ne faut jamais oublier cela.
Oui, parce que l'hymne à la joie, c'est l'hymne européen, je le précise pour nos téléspectateurs. Parmi ceux qui vous ciblent et que vous ciblez, il y a les défenseurs de ce qu'on appelle le décolonialisme. Pour faire simple, si je résume, ce sont ceux qui voient en l'homme blanc l'éternel colon persécuteur et qui veulent qu'on laisse désormais la place aux persécutés, aux descendants d'immigrés, à ce qu'on appelle les races, que certains appellent les racisés, les victimes de racisme. Vous la détestez, cette position victimaire. Ça fait partie de vos combats?
Ça fait partie d'un... Oui, c'est un de mes plus grands combats, en fait. Parce que la victimocratie, c'était partie de la victimisation au début, mais maintenant on entend bien que c'est de la victimocratie. Ouais. C'est-à-dire qu'on est à l'encontre de ce qui s'est passé pour la Révolution française. C'est-à-dire qu'en fait, on prend soit votre genre, soit votre race, soit votre religion, pour en faire finalement un trophée, un espèce de bouclier, une forme d'immunité, où finalement, si on est noir, arabe, musulman, si on est femme, on pourrait dire tout et n'importe quoi, et on pourrait s'attaquer à l'état de droit. Et ça, en fait, c'est aux antipodes de la Révolution française, c'est aux antipodes de l'état de droit, c'est aux antipodes de la démocratie. On a quand même un principe qui est le plus précieux dans notre République, c'est nous sommes tous égaux devant la loi. Et donc on doit tous respecter la loi. Et nous ne sommes pas un peuple religieux, nous ne sommes pas un peuple ethnique, nous ne sommes pas un peuple racial, nous sommes un peuple politique que nous nous retrouvons autour de nos fondamentaux communs, liberté, égalité, fraternité. Cette victimocratie, elle nous tue.
Mais comment expliquez-vous qu'elle prenne cette idéologie ? Au départ, elle vient d'Amérique du Sud. Elle s'est étendue à l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, elle est en Europe, aussi en France. Peut-être que la France résiste davantage que les autres pays, vous allez peut-être me le dire. En tout cas, ça prend. Comment expliquez-vous que cela prenne ? Ça parle aux gens ?
Oui, mais c'est multifactoriel. Ouais. La première chose, c'est qu'il y a une véritable colonisation idéologique. Alors c'est très paradoxal, parce que ce sont les décoloniaux, en fait, qui prônent cette colonisation-là. Mmh. Et les États-Unis, via le soft power américain, donc la culture, on est dans un berceau, enfin on est imbibé de cette culture américaine sur la victimocratie, sur la question raciale. On le voit avec cette question de violence policière qui a été importée des États-Unis, et que finalement ça joue avec les colères et les névroses sociales pour se dresser contre l'État. Ça joue avec la haine de la France. Et donc, avec ces colères-là, c'est du populisme. On fait avec cette colère-là pour entraîner notamment les jeunes dans cette victimisation-là. On ne vous aime pas. Et ce mot racisé, il est éperdument dangereux, parce qu'en fait, il ne fait pas avec l'existence, il fait avec l'essence. Vous êtes racisé depuis la naissance. Ça veut dire que votre promesse de vie, c'est que vous soyez dans des discriminations de par l'État, de par l'homme blanc, de par la femme blanche, depuis votre naissance. Donc ça crée la division depuis votre naissance, et quelle que soit votre vie, vous mourrez racisé. C'est l'inverse de la méritocratie.
Mais ça répond peut-être à une souffrance que vous avez peut-être vous-même ressentie, parce que le public l'a peut-être oublié, mais vous avez vous-même, à un moment donné, pris ce chemin. Vous faisiez partie du collectif qui a écrit « Noir n'est pas mon métier ». Vous l'avez probablement ressentie, cette souffrance d'être assignée à quelque chose parce que noir.
Absolument. Mais c'est-à-dire que c'est parce que j'ai un amour éperdu pour l'égalité, j'ai un amour éperdu pour la justice et pour la lutte contre toutes les formes de discrimination, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie et j'en passe. C'est parce que j'ai un amour de ça que le combat n'a plus été possible au sein de ce collectif. Noir n'est pas un métier, je ne supporte pas lorsque noir n'est pas un métier est devenu un métier de haine contre l'homme blanc et de reproduire un processus discriminatoire. C'est-à-dire que c'est impossible, en fait, d'utiliser l'antiracisme pour être raciste.
À son tour raciste.
Et oui.
Les mots intersectionnalité, racisé, communauté, tout cela, vous le rejetez. Vous êtes une ardente défenseuse de ce que j'ai appelé l'universalité dans mon introduction. On peut le lire d'ailleurs dans votre livre, hein, Racé, qui a été publié aux éditions L'Observatoire. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas rassurant d'appartenir à une communauté, d'appartenir à un groupe qui a les mêmes codes que vous, dans un monde justement où l'universalité, l'universalisme pourrait donner le vertige, et où l'universalisme pourrait, disons-le aussi, être dominé par une ou deux cultures, notamment américaines. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça vient pas d'un besoin aussi d'être dans un groupe identifié, qui mange les mêmes plats, qui célèbre les mêmes fêtes, et qui fait du bien aussi dans un monde où tout est trop universel peut-être ?
J'entends parfaitement, mais alors je suis le plus mauvais public pour répondre à cette question. J'ai grandi dans cette famille. Ma maman est née en 40, donc ma maman enfant caché. On avait rayé son nom. Elle s'appelait Hertz. Normalement, on l'a appelée Renard de 0 à 5 ans. Elle a retrouvé son nom de famille après la guerre. Elle a épousé un monsieur très noir, musulman, animiste. Et j'ai grandi dans cette famille-là, moi. Donc, en fait, mes repères, là où je me sens en sécurité, c'est dans l'universalité.
C'est pas dans une communauté.
Lorsque je vois que je serai dans un groupe où tout le monde se ressemble, dans une espèce de clan clonique, c'est terrorisant, cette idée de race pure, cette idée de gommer toutes les différences, toutes les signatures, toutes les singularités. Moi, ça me terrorise. Moi, je me sens bien dans la République où chaque individu est différent pour créer son propre récit. Et c'est la conjugaison de l'ensemble de nos récits qui fait ce récit national.
Donc vous avez du mal à entendre que certains disent « Oui, mais moi j'ai aussi besoin, quand je rentre chez moi, dans ma ville, dans ma cité, dans ma petite localité, dans mon petit village, des gens qui ont mes codes ».
Il faut des gens avec ses propres codes. Bien sûr que ça rassure, mais ça c'est de l'ordre de l'intimité. C'est très intéressant quand l'intimité se conjugue avec un appel d'air qui est l'autre. moi, en tant qu'afro-yiddish française, éperdument française, mais afro-yiddish, j'ai toujours été l'autre de quelqu'un. C'est-à-dire que quand je suis avec les Noirs, je suis l'autre. Quand je suis dans les communautés juives, je suis l'autre. Quand je suis avec les musulmans, je suis l'autre. Je suis toujours l'autre. Et je crois que c'est ça, la République. La fraternité, ce principe qu'on oublie, c'est être l'autre, c'est voir l'autre. Même si on se ressemble, on est toujours l'autre, de toute façon.
Vous nous l'avez un peu dit, Rachel Kahn, cette universalité, elle a bercé votre enfance. Vous l'avez vécue dans votre cellule familiale. Alors, je vais préciser un peu pour nos téléspectateurs. Une mère juive ashkénaze de Pologne, enfant caché pendant la Shoah. Un père gambien dont les langues maternelles étaient le sérère, le wolof, le peul, vous me dites si je me trompe. Puis l'anglais, langue coloniale, et bien plus tard d'ailleurs le français. Il a été prof de français en Gambie, puis prof d'anglais en France. Il rencontre votre mère à Tours, dans sa librairie. Votre grand-père maternel, lui, parlait le yiddish. Et vous dites quelque chose de très beau à propos de ces langues qui ont bercé votre enfance et de ces accents. Vous dites, ça m'a appris à savoir écouter l'autre, tous les autres, donc.
Oui, parce que petite, quand on a un accent wolof ou sérère qui fait des blagues avec un accent yiddish, je vous assure que, en fait, ça vous apprend les différentes tonalités et comment, à travers leurs mots, ils trouvaient l'harmonie, en fait. Et ça, je trouve que, et en français, parce qu'en fait, c'est des accents, mais dans la langue française, et ça faisait, au fond, vivre cette francophonie dont on parle à travers le monde, mais à table. Donc, c'était assez fascinant, et c'est vrai que l'écoute dans ce monde de bruit, il faudrait revaloriser l'écoute, notamment dès l'école primaire ou dès la dernière année de maternelle, parce qu'on manque éperdument d'écoute. Et donc, comme on manque d'écoute, on démonétise, on dévalorise le dialogue.
Est-ce que c'est difficile parfois d'être la somme de toutes ces identités ?
La somme, l'addition, ça a pu l'être, notamment quand j'étais adolescente. Parce que c'est vrai qu'adolescent, on a besoin d'avoir une case pour mieux se définir, etc. Mais en grandissant, c'est très fatigant. Mais en grandissant, ça me permet d'embrasser cette universalité, en fait.
Et de la défendre.
Et de la défendre, et de la défendre puissamment. C'est-à-dire que pour moi, l'universalisme, ce n'est pas un concept, ce n'est pas de la philosophie. C'est ancré, c'est incarné.
Il y a aussi beaucoup de religions dans votre famille, toutes les religions. Vous disiez même votre père animiste. Vous êtes vous-même croyante, vous pratiquez plusieurs fêtes. Vous dites que vous pratiquez les fêtes catholiques, les fêtes juives, parfois les fêtes musulmanes aussi. Et vous êtes une ardente défenseuse de la laïcité. Certains pourraient y voir un paradoxe. Vous, non,
au contraire, non, c'est vrai qu'il y a du catholicisme, du judaïsme.
Et c'est vrai que vous pratiquez un peu de toutes ces religions.
Alors moi, lorsque, notamment, moi, c'est vrai qu'il y a des années, lorsque je suis au Sénégal et qu'on fait Tabaski, donc la fête du mouton, Tabaski c'est l'Aïd en fait. Donc Tabaski, après quand il y a des fêtes, bah, je les suis, donc je pratique mon islam, et notamment avec mes tantes. Et puis ici, c'est vrai que entre Noël, Pâques, mais après moi j'ai reçu l'éducation religieuse juive.
Vous avez pris des cours de Talmud Torah.
Depuis mes 7 ans, les cours de Talmud Torah. Et donc voilà, je suis juive. Mais après, dans cette famille éperdument laïque, ça veut dire où toutes les religions finalement sont mises en œuvre, et surtout avec des parents... Alors ma mère, je crois qu'elle n'est pas très croyante, mais... Peut-être qu'aussi par rapport à son histoire, c'est vrai que mon grand-père est revenu, il a des camps, et il a arrêté d'aller à la choule.
Mais la synagogue.
La synagogue, pardon. La choule, c'est en yiddish, donc la synagogue. C'est vrai qu'il a arrêté, mais lorsqu'il a su que j'allais au Talmud Torah, je sais que ça lui faisait éperdument plaisir. Après, mon père est croyant. Donc lui, alors il y a eu, vous savez, il était animiste, mais il y a eu l'islamisation... l'évangélisation, puis une forte islamisation au moment de la de la décolonisation, en réalité. Donc, ils pratiquent tout ça. C'est un mélange au Sénégal, ce qui est pratiqué.
Mais alors, vous dites que vous en avez presque voulu à vos parents de vous avoir élevé justement dans cet universalisme au quotidien, parce que vous avez fait des études, notamment un troisième cycle à Assas. Un jour, vous êtes rentré d'une journée à la fac en lui disant « Papa, je crois qu'ils sont racistes ». Et votre père vous a engueulé, vous a dit « Va bosser ». Et c'est marrant que, plutôt que d'y voir une injustice, une source de colère, finalement, il en a fait une force, et vous aussi.
Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est facile de se victimiser. Mais je l'ai détesté, mon père. C'est-à-dire que j'ai dit, mais quelle absence d'empathie. C'est-à-dire que je suis en train de vivre des trucs qui sont d'une injustice sans nom. Donc, de vivre l'injustice dans une fac de droit, c'est comme une mise en abîme qui est assez détestable. J'en ai voulu beaucoup à mes parents, parce qu'en fait, ils m'ont élevé dans un monde de bisounours, où, au fond... Oui, les juifs sont avec les noirs, les juifs sont avec les musulmans, les blancs sont avec les noirs, tout ça se mélange, on est dans un dialogue. Et en fait, quand vous sortez de la maison et que vous voyez que, mais pas du tout, en fait, vous vivez dans un monde qui n'existe pas. Et au fond, c'était une déclaration d'amour que m'a fait mon père en creux, de dire va bosser. Je l'ai pris vraiment de manière... j'ai dit, mais en fait, il ne m'aime pas. Mon père ne m'aime pas, en fait. Ouais. Mon père ne me comprend pas, il ne m'aime pas. J'ai des fachos en face de moi qui me mettent des trois alors que je bosse 16 heures par jour.
Des profs.
Et mon père me dit, va bosser. Et en fait, je comprends aujourd'hui, mais il m'a fallu du temps, que lorsque l'on bosse, c'est-à-dire qu'on est victime de discrimination, mais lorsque l'on travaille, à la fin, le travail, il vous appartient. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « je suis noire, je suis victimisée, je suis discriminée, etc. » Oui, mais quand on prend sa revanche, en travaillant, en gardant en fait cette force qui vous fait répliquer par le travail, et ben vous arrivez à vous en sortir. Et c'est le message que j'essaie de transmettre aux plus jeunes. Et surtout, qui je suis, moi? En Afrique, on a quelque chose par rapport aux aînés. On les respecte éperdument.
Bien sûr.
Et je trouve que les décoloniaux aujourd'hui qui crachent sur la génération de mon père, qui ont vécu les indépendances, qui ont vécu, qui se sont retrouvés ici dans les années 60, qui ont réussi à être professeurs d'université dans les années 60, on ne peut pas se plaindre. On doit travailler.
J'ai une archive à vous proposer, Rachel Kahn. Ah. Alors, je vais vous la mettre entre les mains, mais évidemment, je vais la décrire pour les gens qui nous écoutent. Il s'agit d'un extrait du dossier de carrière CNRS de Léopold Sédar Senghor. Oh. Senghor, ayant sollicité une bourse pour achever sa thèse, commencée en 1938, interrompue par la guerre, l'occupation, la captivité, vous avez sous les yeux l'avis du rapporteur Vendriès, qui écrit ceci, on est en novembre 1944. Avis très favorable, monsieur Senghor me paraît qualifié pour devenir un maître de la linguistique africaine. Il mérite à tous égards d'être aidé d'une large subvention qui lui permette de se faire mettre en congé afin de travailler librement à la préparation de ses thèses. Et je crois qu'il y a un petit lien entre Senghor et vous. Je crois qu'il a commencé sa carrière de prof de lettres classiques dans votre établissement, dans votre lycée à Tours, le lycée Descartes. C'est une figure importante pour vous?
Très importante. Très importante, parce que Senghor, effectivement, il y a un lien avec la Touraine, agrégé de lettres. Il était agrégé de lettres latinistes, hellénistes. Et puis l'autre lien, c'est qu'il est de l'ethnie de mon père, Serer. Et ils se ressemblent beaucoup. Et j'ai une photo où ils sont tous les deux. Et Senghor, lorsqu'il voyait mon père, il lui disait « Ah, c'est le Gorgui !» Et Gorgui, en fait, c'est l'homme, voici l'homme, alors qu'ils ont beaucoup d'écart. Hein. Donc mon père devait être un jeune homme lorsqu'il a rencontré Senghor. Il a rencontré donc Senghor, académicien, premier président du Sénégal après les indépendances. Donc lui, en fait, il conjugue. Enfin, j'aimerais bien avoir le regard des racialistes et des décoloniaux sur la vie de Senghor. Et puis, Senghor, c'est l'excellence. Il a écrit des choses sur la réparation, notamment « Prière à mon frère aux yeux bleus ». Prière à lui, alors même qu'il a vécu tout ça. Il a vécu la guerre. Il ne restait pas dans l'amertume. Il était là dans... Il a créé la francophonie. Il était là dans le dialogue. Il a créé des ponts, des liens. Et il a rencontré mon père lorsqu'il y a eu le Festival des Arts Nègres au Sénégal, où mon père était bénévole, et mon père a eu la chance de dîner à la table de Joséphine Baker et de Senghor.
Qu'est-ce qui vous inspire ce document? Parce qu'il dit tout le travail et tout le mérite de Senghor, et il lui accorde une large subvention. Ça dit un lien très fort aussi entre la France et l'Afrique, même si, je sais ce que vous diraient les décoloniaux, le lien entre la France et l'Afrique n'était pas sain à l'époque de Senghor.
Il a permis, il n'était pas sain, mais Senghor était très lucide. C'était quand même un fervent, enfin c'est pas un fervent, c'était le créateur avec Césaire de ce qu'on appelle la négritude. Donc il a créé un courant littéraire. Évidemment, il y a eu ce soutien, et ça me fait penser aussi au soutien qu'a eu mon père avec le British Council. C'est-à-dire que mon père était premier de sa classe, et il a eu ce soutien pour lui permettre de faire ses études. Ce sont des enfants qui sont nés dans des endroits, pas d'eau, pas d'électricité, pas de livres. Mon père, il adorait les soirs de pleine lune parce qu'il avait un livre et ça lui permettait de le relire toute la nuit. Et en fait, c'est ça le truc. C'est comment faire grandir nos humanités en partant de rien et avec son propre récit.
Senghor qui nous amène aussi à parler de politique. Vous aussi, d'une certaine manière, vous êtes dans l'univers politique, vous êtes conseillère politique. Je crois que Mediapart vous a appelé le visage du macronisme. Comment vous prenez tout cela et qu'est-ce que c'est que d'être conseillère politique finalement? C'est quoi votre rôle?
Oui, c'est-à-dire que j'ai surtout mon visage. Pourquoi m'assigner encore à une nouvelle étiquette? Ça ne leur suffit pas. Enfin, je suis juive, je suis française en un, je suis noire, je suis blanche, je suis musulmane, je suis juive. Et là maintenant, on me remet un visage du macronisme. Pourquoi assigner toujours? Pourquoi encore des nouvelles étiquettes? Enfin, j'ai mon propre visage. Et avec ce visage-là, j'essaie de réfléchir, j'essaie de penser à ce qui pourrait redonner de la force et de la puissance à notre République.
Voilà. Sans passer à l'action, sans se présenter un mandat, par exemple, c'est quelque chose auquel vous pouvez penser?
J'ai déjà mon mandat, moi, je crois. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, je fais beaucoup. Enfin, je vais sur tous les territoires, j'écris des livres, enfin, j'essaie d'utiliser tous les médias. On a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, mais il y a aussi évidemment les bouquins, évidemment les films, aussi le terrain. Je vais en détention parler à des fichiers S, mais pas parler juste une fois. J'ai organisé des ateliers sur de très longues périodes où j'allais voir les fichiers S toutes les semaines, ou même sur les détenus avec des longues peines. En tout cas, j'essaie de m'imprégner du terrain pour ensuite réfléchir et donner quelques pistes, quelques chemins à nos représentants.
Vous envoyez des effets concrets parfois? Je dirais pas une réforme, mais peut-être un article, un décret, quelque chose qui viendrait de ce que vous avez apporté.
J'envoie des choses,
c'est vrai.
Oui, j'envoie des choses, et notamment sur ce qui m'anime le plus, c'est-à-dire la culture. Je trouve très dommage de ne pas avoir une vision très forte aujourd'hui sur la culture. La culture, c'est pas que des budgets, c'est pas que des tableaux Excel. La culture, c'est de savoir comment épauler au mieux nos artistes, parce que nous sommes dans une guerre culturelle.
J'ai aussi des photos pour vous, Rachel Kahn. Ça fait partie des rituels de cette émission. La première photo que j'ai eu envie de vous présenter, c'est celle de Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis sous Joe Biden, de mère indienne, de père jamaïcain. Elle a été accusée de trahison raciale parce que mariée à un homme blanc. Est-ce que vous craignez que ce genre de reproches et de critiques arrivent en France?
Ah, mais moi, c'est les critiques que je reçois depuis que j'ai écrit Racée. Tout allait bien lorsque j'étais là pour... de donner des subventions justement pour soutenir certaines personnes qui se disent racisées et que je me taisais. Tout allait bien jusqu'au jour où ils ont dépassé, selon moi, des limites à faire du racialisme et où j'ai commencé à écrire des ouvrages et où j'ai été traitée de traître et de banania et de négresse de maison. À partir du moment où vous êtes libre, et c'est ce qui ressort aussi de là,
du document
de Senghor, afin de travailler librement. À partir du moment où vous êtes libre, c'est paradoxal, à partir du moment où vous êtes affranchi et vous n'êtes plus
assigné,
où vous n'êtes plus l'esclave, où vous n'êtes plus le troupeau, donc en fait, où vous êtes profondément indépendante, donc là je fais un clin d'œil aux décoloniaux, ben c'est là où on vous dit que vous êtes traître. Et c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'on a des personnalités qui sont censées être des modèles d'émancipation, ils sont qualifiés de traîtres.
Et on les attaque. J'ai une autre photo pour vous. Alors, c'est une photo qui représente un bout de tableau de cette cérémonie d'ouverture du Mondial de rugby 2023 en France. Jean Dujardin, la baguette, le Marcel, le béret, tout y était. Adriana Carambeu comme représentante d'une certaine manière de la française type. Libération a parlé de la France rance. Et vous ?
Moi, je trouve que Libération, avec ce titre, incarne dans la pensée la souffrance. Jean Dujardin est l'un de nos plus grands artistes. À chaque fois qu'on a des grands artistes, on n'est jamais fier, en fait, d'avoir des grands artistes. Mmh. Il crée, il a été reconnu de manière internationale, il a eu un Oscar. Mmh. Et on lui crache dessus, et c'est ça la France rance.
Une toute dernière photo, il s'agit du quartier des Halles, qu'on appelait le ventre de Paris, un quartier que vous connaissez bien pour avoir été la co-directrice de La Place, centre culturel hip-hop sous la canopée. Les Halles, c'est aussi la France que vous aimez, cette France des carrefours de culture?
Oui, alors c'est vraiment dommage que les Halles ne rayonnent pas plus, c'est-à-dire ne soient pas... En fait, c'est ce mélange, en fait. Je voudrais pas que les Halles deviennent un ghetto. Mm. Voilà. Mm. C'est vrai que c'est un quartier que je connais bien. Il faut que ça reste un quartier véritablement ouvert, oui, avec toutes les pratiques et toutes les esthétiques.
Et pas replié sur lui-même.
Exactement.
Une dernière question en lien avec le lieu dans lequel nous sommes. Nous sommes entourés de 4 statues, chacune représentant une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Le rituel de cette émission, c'est de demander à notre invité dans laquelle de ces vertus il se retrouve le plus. Ça peut être une autre, si celles-ci ne vous correspondent pas.
La justice. Elle est en face de moi en plus. C'est bien de célébrer les statues, il faut les protéger, nos statues, aujourd'hui.
Le message est très clair. Oui. Merci Rachel Kahn d'avoir été notre invitée ici, merci, dans Un Monde, Un Regard. Merci d'avoir été et d'avoir répondu si sincèrement. Évidemment, émission que vous pouvez aussi écouter en podcast, j'espère que vous le savez maintenant. Merci à vous de nous avoir suivis, merci beaucoup. Merci.